En 2007, je parlais de contentizing et tout le monde me regardait avec de gros yeux, pensant probablement que je venais d'avoir un accident vasculaire cérébral. 10 ans plus tard, on n'en a que pour le marketing de contenu. Marketing de contenu par-ci, marketing de contenu par-là. Et pourtant, les marques ont-elles bien compris ce que ce changement de paradigme fondamental implique? On en jase avec une grande dame qui a bâti sa propre business grâce au contenu. À preuve, son blog et ses 2600 billets sur le joyeux monde numérique. Point de conversation avec l'ami Michel Blanc. Bon podcast!
Michel Blanc, bonjour.
Salut Michel, c'est Normand.
Hey, c'est Normand. Ça va bien?
Ben oui, ça va toi?
Ah, ça va pire.
Ouais, ça roule?
Ah ben oui, ça va. T'sais, on en veut toujours plus, mais je peux pas me plaindre.
Ah ouais? T'en veux toujours plus, toi?
Oui.
Ah, pas moi. Des fois, je n'ai assez.
Ben, tu sais, moi, je fais du conseil stratégique, hein, fait que c'est sûr que tu fais pas du huileur, fait que ça fait un roulement.
C'est sûr.
Puis, moi, j'en fais bien ma vie avec les conférences.
Donc, oui.
Tout le monde est rendu un expert des médias sociaux, vous savez.
Déjà que, v'là 10 ans, tout le monde l'était, fait que, imagine maintenant.
Fait que, tu sais, on s'entend que, bon, il y a beaucoup de bullshit pour parler de ça, mais bon, tant que le client, comme le client connaît pas ça, il pense que c'est bon. Mais quand ils sont en marde, ils me rappellent. Moi, je fais ce qu'on appelle du marketing de contenu.
Oui.
Et marketing de contenu, bien, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Sauf qu'il y a une pérennité dans l'investissement, contrairement à la pub. La pub, c'est bien du travail aussi, sauf qu'un coup de l'argent dépensé, il disparaît. Tandis que le marketing de contenu, un coup de l'argent dépensé, il y a une pérennité de l'investissement parce que les contenus restent en ligne.
Absolument. Puis du côté Google, c'est tout à fait utile.
Hein? Exactement.
Mm.
Fait que j'ai des clients qui l'ont à la perfection, puis il y en a d'autres qui veulent, mais que bon, c'est compliqué.
Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué, tu penses?
Un, c'est la peur de se dévoiler. Deux, c'est que c'est plus facile de mettre 500 000 dans une pub puis mettre la responsabilité sur une agence que de mettre 500 000 sur du contenu puis prendre tes responsabilités.
Puis en fait, parler pour ta marque puis de ton produit plutôt qu'y aller avec de la poésie publicitaire.
Oui, puis encore là, parler de son produit, c'est peut-être pas la solution. Ce qui est mieux, c'est de parler de son sujet. Puis l'exemple ultime de ça, bien évidemment, c'est par exemple Lululemon. Au lieu de parler de ses pantalons stretchés qui coûtent la peau des fesses, parle de yoga, de nutrition, de course, de voyage, de prof de yoga. Donc, il parle de tout ce qui entoure le contexte d'utilisation de son produit. Au lieu de parler de son produit, ça, c'est winner.
Ça, c'est un de tes clients?
Non.
Non.
C'est ça, hein? Si tu es vraiment efficace, le marketing de contenu peut devenir une source de revenus. Un exemple de ça, c'est Costco. Costco Contact, qui a à peu près une quarantaine de pages, il y a à peu près une vingtaine de pages de pub, puis une page, ça coûte à peu près 50 000 $.
OK.
Fait qu'il a fait le calcul, 50 000 fois 20, c'est assez payant.
Fait qu'eux autres créent leur contenu, puis ils vendent de la pub au lieu qu'eux autres ajoutent de la pub dans ceux qui créent du contenu.
Et voilà.
Ah. Puis en général, quand ils t'appellent, qu'est-ce qu'ils veulent?
Ben, c'est assez varié.
Oui.
Ben, juste par exemple, je fais de la gestion de crise des médias sociaux. Ça, c'est assez trouvé. On se fait installer en ligne, avec NetBrand, comment on peut régler ça.
Mm-hmm.
Il y a évidemment des gens qui veulent avoir une présence web efficace. Puis là, bon, ben, moi, je regarde qu'est-ce qu'ils font. Puis effectivement, ben, où leur technologie n'est pas adéquate, ben, où ils sont coincés avec une technologie propriétaire, ils veulent flusher leur fournisseur, puis ça va vraiment, puis ils risquent de perdre. Ou, tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense que le gros investissement, c'est le site web. Le gros investissement, c'est pas le site web, c'est de le faire vivre après qu'il est construit.
Ben oui, c'est ça, c'est ce qu'il y a dedans.
L'autre problématique, c'est qu'évidemment, si on parle de médias sociaux, il y a beaucoup de monde qui ont l'impression qu'il faut tout barrer, il faut tout contrôler. Et moi, je leur dis, la US Air Force, c'est le contraire. Du soldat au général, tout le monde a été habilité à aller sur les médias sociaux. Et ils se sont rendus compte qu'à l'intersection des médias de masse et des médias individuels, il y avait les médias sociaux qui étaient le terreau fertile de la propagande ennemie.
Mm-hmm.
Alors, ça aura un impact pour que tu sois là. Mais évidemment, tu sais, souvent, les entreprises ont l'impression que les médias sociaux doivent reposer sur un gestionnaire de communauté d'acide d'assaut, alors que toute l'organisation devrait prendre part aux médias sociaux, ce qui fait que tu as pas mal plus d'impact si tu as 50 personnes qui s'impliquent que si tu en as une.
trouve souvent les médias sociaux aussi, où ça se trouve à être un vil reflet de leur communication publicitaire, c'est-à-dire du contenu super encadré, pas vivant. Puis...
Tout à fait, tout à fait. Puis justement, ils souffrent de...
D'égocentrisme?
Exactement. Ouais. D'égocentrisme corporatif.
Du narcissisme social.
Des narcissiques de marque. C'est du moi, mon produit. Au lieu de parler de mon sujet.
Ouais.
J'ai donné une conférence pour l'Auto-Québec pour à peu près 200 festivals qui étaient dans la salle.
Mm-hmm.
Puis ma première slide, c'est « Vous n'êtes pas un festival, vous êtes un sujet ». Là, je prenais l'exemple du festival du cochon Sainte-Perpétue. Si t'es un festival, t'es pertinent 10 jours par année.
Ouais.
Si t'es un sujet, t'es pertinent 365 jours. On s'entend que le cochon, c'est un méchant sujet, tu sais.
Il y en a
des affaires à parler du cochon, tu sais. Le cochon dans la mode, le cochon, les recettes de cochon, les types de cochon, le cochon en médecine chirurgicale, cardiaque, le cochon dans la mythologie, le cochon dans l'art, c'est bref, c'est infini, là, t'sais.
C'est à perpétuité, comme pour la ville de Sainte-Perpétue.
Ben voilà, c'est ça. Fait que si tu deviens l'autorité mondiale du cochon, ben évidemment, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent.
Ouais.
Puis, plus t'es commanditaire, ben là, il y a la visibilité, il y a la pertinence, puis ça va faire le médicament. T'sais, c'est toi le king mondial de tout ce qui est cochon. Ben là, c'est plus la même histoire, là. Mais c'est pas le même investissement, c'est pas le même apport.
C'est ça.
Et souvent, les gens comprennent pas que les médias sociaux, c'est un investissement moyen-long terme pour des retombées moyen-long terme. À court terme, ça marche pas.
Puis toi, tu le sais, le moyen-long terme, ton blog, ça fait longtemps qu'il existe. Là.
Ah, ça fait plus de 10 ans maintenant. Hein?
C'est ça.
Je vais au-delà de 2600 billets. Fait que c'est sûr que ça commence à faire du stock. Là, il y a 200 billets qui ont été pris pour faire deux livres. Fait qu'il y a une couple de livres qui dorment dans mon blog.
Je comprends. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant, toi, c'est l'interaction que tu fais entre tes différentes propriétés de médias sociaux puis ton blog. Ça devient un véritable écosystème plutôt que juste être des bouts séparés qui vivent de façon relativement autonome, mais on va voir souvent dans tes billets que tu vas t'auto-citer par rapport à ce que tu vas avoir dit sur Twitter, par exemple.
Mes médias sociaux, c'est là que je partage ma veille en temps réel. Là, c'est évidemment, il y a beaucoup de humains parce que toutes les propriétés web ont besoin d'interaction pour que les autres contenus soient mis de l'avant, que ce soit dans Google, que ce soit dans l'algorithme Drink. Plus il y a d'interaction avec tes contenus, plus tes contenus vont être favorisés quand tu as la visibilité sur les plateformes.
Absolument.
Alors, c'est sûr que si je te dis qu'il y a une croissance du commerce électronique de 19% en décembre, c'est pas le genre de contenu que le monde va vraiment aimer puis que le monde va vraiment interagir avec. Mais c'est un contenu qui est important pour moi parce que ça fait partie de ma ligne éditoriale.
Ouais.
Si je mets une photo de ma chienne Charlotte, là, j'ai 200 likes puis 100 commentaires. fait que c'est dur pour mon ego, ma chienne pointe plus que moi. Mais parce que j'ai mis une photo de ma chienne, mon statut à propos de 19% va être vu par plus de gens.
Ben
oui. Écoute, je comprends la mécanique. C'est une question de philosophie aussi, là, tu sais. Fait que, en mettant une photo de ma chienne, je m'humanise. Je suis pas rien qu'une grosse capitaliste sale qui fait du cash sur le dos du pauvre monde. Je suis quelqu'un qui aime les chiens, qui est touché par la beauté de la nature, etc. Alors là, tout d'un coup, je suis une personne. Je suis pas rien qu'une entrepreneur. Je profite des entreprises, tu sais.
Ça, ça se peut-tu uniquement pour une personne marque? Je fais ça en bracket, là, mais une entreprise, peux-tu...
Non, justement, ça se fait pour les entreprises. C'est dur pour les entreprises parce que les entreprises ont été brainwashées à de la pub.
C'est ça,
hein? Tu sais, on dit souvent que les médias sociaux permettent aux entreprises de devenir leur propre média, mais le corollaire de ça, c'est qu'il faut que tu deviennes ton propre média. Donc, il faut que tu fasses du contenu. Il faut que tu sois intéressant. C'est ça qui est difficile pour eux autres. Puis le pire, c'est que la majorité des organisations, quelles qu'elles soient, créent du contenu à longueur d'année, mais ils ne se rendent pas compte que le contenu qu'ils font, il pourrait sortir de leur serveur puis être mis sur le web. Ils ne réalisent pas que ça a une valeur pour l'externe. Puis il y a souvent, le monde, ils ont la peur de pas donner trop d'informations. Mais donner trop d'informations, ils ne réalisent pas que l'information, si c'est pas toi qui la donne, quelqu'un d'autre va la donner. Elle va être donnée de toute façon. Et moi, c'est sûr qu'il y a bien du monde qui lise mes contenus, puis il y a du monde qui m'écrivent, qui disent que grâce à mes contenus, ils sont positionnés, qui ont trouvé des clients, puis ils vendaient. Tant mieux pour eux autres, tu sais. C'est mieux être copié que celle qui copie, tu sais. Tu sais, le web, c'est un peu loi karmique. Plus tu donnes, plus tu reçois, tu sais.
C'est intéressant.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres PizzCasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das PizzCast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!